On va retrouver le conflit russo-ukrainien avec la percée ukrainienne à Koursk en Russie qui semble avoir relancé les dés dans ce conflit qui dure maintenant depuis plus de 2 ans. Hier encore, une salve de drones ukrainiens a été lancée contre Moscou. Alors, comment l'analyser? On en parle, vous en parlez, Lucie, avec David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
Bonjour David Rigoulet-Rose.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Nous souhaiterions aujourd'hui aborder avec vous les nouveaux développements de la guerre entre la Russie et l'Ukraine cette fois-ci. Alors les médias font état d'une attaque de drones sur Moscou, la plus grande attaque jamais menée par des drones ukrainiens depuis le début des combats en 2022. Est-ce que cela veut dire que l'Ukraine reprend la main sur ce conflit ?
Ouais, il faut relativiser, effectivement, c'est une attaque conséquente avec une dizaine de drones sur la capitale. Mais en tout, il y avait près de 50 drones aussi sur la région de Bryansk, Belgorod, Koursk. Donc c'est une manière de montrer que l'armée ukrainienne se limite pas à une poussée territoriale justement au niveau de l'oblast de Koursk et qu'elle est en capacité de viser effectivement la capitale. D'ailleurs, le maire de la capitale, hein, Sergueï Sobyanin, a parlé d'un des plus grandes tentatives de tous les temps, avec une exagération dans la mesure où l'essentiel des drones ont été d'ailleurs abattus, et la réponse d'ailleurs russe s'est pas fait attendre vis-à-vis de justement du territoire ukrainien.
Alors justement, vous évoquez l'offensive de Koursk, j'aimerais aussi l'évoquer ici avec vous. Quels étaient les objectifs stratégiques de l'Ukraine en lançant cette offensive? Comment cela s'inscrit-il dans ses objectifs militaires globaux?
Alors, il y a une dimension à la fois politique et militaire. D'abord, c'est une opération qui a été préparée dans le plus grand secret. Les officiers eux-mêmes auraient été prévenus au dernier moment, donc pour l'offensive du 6 août, dans une région au nord de Kharkiv, hein, dans l'oblast de Koursk, une région qui n'était pas particulièrement défendue par les meilleures troupes russes, qui sont plutôt concentrés dans le Donbass justement. Il y a beaucoup de conscrits et donc en tout cas le fait est qu'il y a c'est un succès à la fois politique et militaire puisqu'il y a une progression sur 1250 km², près d'une centaine de localités prises, des ponts qui ont été détruits. Donc ça permet de redonner le moral, on va dire, à l'armée ukrainienne qui en avait bien besoin depuis l'échec de sa contre-offensive avortée. Mais en même temps, ça va pas changer, c'est pas un game changer de la guerre, dans la mesure où, même s'il y a un établissement temporaire, effectivement, de troupes ukrainiennes, on va dire que c'est un affront fait à Vladimir Poutine, c'est aussi une opération de communication vis-à-vis des alliés, surtout au moment où l'Allemagne, par exemple, gêne toute nouvelle aide militaire, c'est une manière de montrer son dégage aussi donné aux alliés, puisque dans l'opération en question, il y a des strikers américains ou des mardeurs allemands qui ont été utilisés pour montrer que le matériel occidental, effectivement, est utile et utilisé à bon escient, y compris de manière très proactive. Donc il y a un ensemble de paramètres qui, effectivement, peuvent expliquer cette opération militaire, avec en toile de fond l'idée qui a été d'ailleurs avancée par les autorités effectivement du pays de l'Ukraine. L'idée c'est éventuellement de négocier quelque chose avec Vladimir Poutine. C'est pas uniquement effectivement une opération strictement militaire, puisqu'un des conseillers de Podolyak, justement du président Zelensky, évoque l'outil militaire utilisé, je cite, objectivement pour persuader la Russie d'entrer dans un processus de négociation équitable. Donc il y avait l'idée d'un rééquilibrage, mais qui sera sans doute pas suffisant par rapport aux ambitions de Vladimir Poutine.
Parce que d'après ce que j'ai compris, et vous l'évoquez également, les troupes ukrainiennes restent en grande difficulté sur d'autres fronts que Koursk, et alors que en fait la communauté internationale a tourné et a le regard tourné vers cette région, quels sont les risques que l'Ukraine prend ici?
L'Ukraine, effectivement, dans la région du Donbass, subit une pression de plus en plus forte. Justement, c'est le paradoxe, d'où le rééquilibrage que j'évoquais. Mais il y a un effet d'optique, parce que c'est pas un rééquilibrage au sens militaire du terme. dans la mesure où la percée ukrainienne s'est faite sur des troupes russes qui n'étaient pas les plus efficientes. En revanche, dans le Donbass, la pression russe se fait de plus en plus forte, notamment sur la ville en direction de la ville de Pokrovsk, ce qui est un nœud, on va dire un nœud logistique. En réalité, l'ambition de Vladimir Poutine, c'est d'achever tout simplement la conquête de l'oblast de Donetsk, donc de l'ensemble du Donbass. Et là, il y a un enjeu stratégique qui dépasse très largement l'opération lancée à Koursk le 6 août dernier.
Mais est-ce que cela pourrait se révéler être une erreur stratégique de la part de l'Ukraine ?
Non, c'est pas une erreur stratégique, mais simplement ça risque de masquer les difficultés qui sont réelles. Justement au niveau du Donbass, où là les troupes russes poussent de plus en plus, à tel point d'ailleurs que il y a des ordres d'évacuation qui ont été donnés par le gouverneur de l'oblast justement de Donetsk pour avec la ville de Prokhorovsk justement pour éviter que les civils soient menacés, puisque les soldats russes sont manifestement à une dizaine de kilomètres du centre-ville aujourd'hui.
Alors, sur un autre sujet, Vladimir Poutine a maintes fois agité la menace nucléaire, mais comme celle-ci se fait attendre, Volodymyr Zelensky veut potentiellement convaincre ses alliés qu'il n'a plus de ligne rouge. Alors, est-ce que cela pourrait être un bluff que les Ukrainiens seraient en train de révéler ?
Oui, pour l'instant, la grammaire nucléaire a été respectée, même s'il y a des déclarations parfois intempestives, notamment par exemple de Medvedev, au sein du Conseil de sécurité russe, mais de la part de Vladimir Poutine, il n'y a jamais eu de caractère explicite dans les menaces concernant le nucléaire, y compris le nucléaire tactique. Ce qu'on appelle la grammaire nucléaire a toujours été maintenue des deux côtés, même si évidemment il y a toujours le risque que la situation sur le terrain pousse les acteurs à instrumentaliser cette menace. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Mais effectivement, il y a depuis le début du conflit, il y a une multiplication de ce qui est inquiétant par rapport à cette problématique nucléaire, c'est qu'il y a une forme de banalisation, on va dire, de la rhétorique nucléaire. Beaucoup plus importante qu'elle ne l'était les dernières décennies, et ça c'est préoccupant parce que c'est un sujet justement qui peut pas souffrir de banalisation.
Alors par rapport à ce sujet et ce conflit en particulier, est-ce qu'on doit s'attendre à des avancées dans les prochains jours ? Est-ce qu'il y a un agenda ?
Pour l'instant, sauf surprise, il n'y a pas d'agenda particulier. Il y a une poussée qui est maintenue au niveau de Koursk et une pression qui est de plus en plus forte russe dans le Donbass. Donc ça, c'est une réalité. Ce qui est préoccupant pour l'Ukraine, c'est la question du maintien, de la pérennité, du soutien, justement, pour la guerre contre la Russie. Et de ce point de vue-là, l'annonce faite par l'Allemagne a fait l'effet d'un coup de tonnerre, puisqu'il y a eu le jet d'une nouvelle aide militaire, avec l'idée que les crédits allaient être divisés par deux, d'une année sur l'autre, donc pour 2025, avec un plafonnement. Et donc là, c'est on va dire, ce sont les aléas de la politique intérieure allemande. Mais sur le fond, ça révèle par rapport à la question de l'endettement et du coût de la guerre qui est financé au profit de l'Ukraine. Ça concerne tous les pays européens, la France y compris d'ailleurs, parce que la guerre coûte cher. Et effectivement, il y a des contradictions à gérer entre des impératifs de sécurité collective européenne et puis les aléas des politiques nationales intérieures de chacun des États qui sont engagés dans le soutien à l'Ukraine. Et c'est d'autant plus préoccupant qu'à la perspective évidemment de la présidentielle américaine, et qu'on sait que la position notamment de Donald Trump en la matière est plus que problématique pour la pérennité d'une aide justement au président Zelensky.
Donc si je comprends bien, cela pourrait préjudicier l'Ukraine en particulier.
Oui, l'Ukraine effectivement... ces derniers mois, elle a été très en difficulté, pas le temps que certaines armes arrivent. Et puis, il y a eu un rétablissement. On le voit avec cette opération du 6 août. Mais ça ne sera pas suffisant pour faire basculer le conflit. Et donc, la question, c'est, puisque c'est une guerre qui s'inscrit dans le temps long, c'est la question, en réalité, de l'assurance, de la poursuite, du soutien des Occidentaux en général et des Européens en particulier.
Eh bien, David Ricoulet-Rose, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci de nous avoir apporté votre éclairage aujourd'hui.
Merci à vous.
Au revoir.